Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui me venait à l'esprit. Qu'Allah yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa mawlana wa 'ala Allah falyatawakkal al-mu'minin. Pendant 12 ans que je suis resté en prison, jusqu'à 5 ans maintenant, n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi.
Deux ans seulement après l'éclatement de l'éphémère fédération du Mali et l'accession à l'indépendance du Sénégal, c'est au tour des deux leaders, des deux amis qui conduisent les destinées du pays de la Teranga, que le torchon brûle. Accusé d'avoir fomenté un coup d'état contre Léopold Sédar Senghor, le président de la République, Mamadou Dia, le président du Conseil, qui croyait avoir le soutien de celui qui l'a convaincu de se lancer en politique, a été arrêté et traduit en justice.
Dans son réquisitoire nuancé d'une grande modération, le procureur général, M. Ousmane Camara, avait dit hier, entre ce que Mamadou Dia croyait légal en se basant sur la suprématie du parti et ce qu'est la loi, il y avait un procès. Ainsi, le rideau tombe sur un procès, peut-être moins celui d'un homme de parti que celui d'un système. Un procès entre la constitution et la primauté du parti. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal.
Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia.
Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. D'autant que lorsque, quand il y a eu également cette fameuse crise où il s'est plaigné d'un certain nombre de mes ministres, c'était le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information de l'époque, Abe Diop, un autre ministre, José Mbaye, j'ai échangé les ministres, j'ai dit maintenant, je ne peux pas aller plus loin si tu veux. Je suis prêt à m'effacer, à faire campagne à travers le pays pour un régime présidentiel. Il m'a dit, pas question. 7-8 mois après, il me prête cette intention-là à moi de venir lui faire un coup d'État. Je n'ai pas compris ça.
Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Aliou Ntal, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droits civiques. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. Ainsi, le rideau tombe sur un procès, peut-être moins celui d'un homme de parti que celui d'un système. Un procès entre la Constitution et la primauté du parti. Dans son réquisitoire, nuancé d'une grande modération, le procureur général, M. Ousmane Camara, avait dit hier, entre ce que Mamadou Dia croyait légal en se basant sur la suprématie du parti et ce qu'est la loi, il y avait un procès. Aujourd'hui, dans l'histoire du Sénégal, la légalité l'a emporté en toute justice sur la primauté du parti. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal.
Mamadou Dia est incarcéré avec ses ministres dans les confins du Sénégal oriental à Kédougou, zone aride à la frontière entre le Mali et la Guinée. Éloigné de tout, Mamadou Dia.
Il a d'ailleurs été poussé, je dois le dire, par les assistants militaires français qui m'en voulaient aussi. Je venais de prendre des dispositions d'accord avec le gouvernement français pour mettre fin au service des assistants techniques militaires français au Sénégal.
Mamadou Dia.
Pendant 12 ans que je suis resté en prison, jusqu'à 5 ans maintenant, n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même. Mais en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir particulier, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu. Sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.
L'ancien président du conseil de gouvernement du Sénégal, Mamadou Dia, qui a trouvé dans la prison un endroit propice pour la spiritualité, pour la méditation, qui voit dans son malheur, dans sa chute, dans son incarcération, la volonté de Dieu qui veut éprouver sa foi musulmane, souffre malheureusement des yeux. Un glaucome aigu. Mais il n'obtient pas l'autorisation du président Senghor de venir se soigner dans un hôpital de Dakar. Roland Collin, ancien directeur de cabinet de Mamadou Dia.
Grosse responsabilité, si vous voulez. Pas cruel. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de contradictions. Ça n'enlève rien à l'estime que j'ai pour Senghor et tout ce qu'il a apporté par la négritude. Mais je dis, cet homme était déchiré. Or, en fait, Mamadou Dia, au moment où il a été mis en prison, avait un début de glaucome. Maladie oculaire, qui est sérieuse. Et pendant 8 ans, il n'a pas pu voir de spécialiste. Il est resté enfermé sans avoir un véritable traitement. Et au bout de 8 ans, sans un traitement approprié, la vue est compromise et perdue. Et voilà la raison pour laquelle il a perdu la vue.
Mais est-ce qu'il était au courant, le président Senghor, qu'il souffrait de ce mal?
Alors,
on aurait pu, par exemple, dépêcher un...
Il n'est pire sourd que qui ne veut entendre. Et je crois que effectivement, Senghor se protégeait derrière une vision idyllique. Bien sûr, il n'est jamais allé à Kédougou. Quand le professeur Pérou a écrit à Senghor pour lui dire « Mamadou Dia souffre en prison », Senghor lui a répondu « Mais non, il est dans une petite maison à l'intérieur d'un camp militaire et cette maison est climatisée. Ils sont traités de façon... » Bon, alors que, bien entendu, la réalité est totalement différente.
Mais il était conscient de la réalité, qu'elle était différente de celle qu'il annonçait.
Alors là, c'est un mystère. Mais probablement, il n'a pas cherché vraiment à savoir. Parce qu'effectivement, ça aurait probablement traîné trop loin. Et puis, il y avait des personnages, disons, peut-être un peu moins clairs. Mon homonyme Jean Collin, qui était ministre de l'Intérieur, qui était le grand maître des prisons, à qui j'ai eu affaire, d'ailleurs, au moment de la négociation avec Mamadou Dia, et qui avait pris ça assez mal. Mais enfin, bon... on est passé outre parce que j'avais l'aval personnel et complet de Senghor. Donc il y a eu tout ça, vous voyez, qui ont joué. Mais Mamadou Dia aurait pu très bien mourir en prison. Ce qui aurait pu aussi être une manière de régler le problème aux yeux de ses pires ennemis.
Même si ses pires ennemis exultent justement, ils sont quelques-uns, des amis, des proches, qui entreprennent une démarche auprès du président Léopold Sédar Senghor, qui est jusque-là resté sourd aux pressions venues de toutes parts pour obtenir sa libération. Roland Collin, vous faites justement partie de ceux qui négociaient en secret, dans la plus grande discrétion. On a souvent dit que le président Senghor avait accepté le principe, mais exigeait qu'à sa sortie, Mamadou Dia ne fasse plus jamais de la politique. C'est une rumeur ?
Ça fait partie de l'histoire de la négociation que je révèle pour la première fois dans ce livre « Le Sénégal, notre pirogue ». Senghor m'avait proposé de rentrer au Sénégal, parce que j'étais tombé malade peu avant les événements proprement dits. Bah, et Senghor me fait appeler, après le tribunal, enfin après le jugement de Mamadou Dia, et me demande de revenir. Je dis non, je ne remettrai pas les pieds au Sénégal tant que Mamadou Dia sera en prison. Senghor n'était pas très content. Pendant 5 ans, j'ai pas remis les pieds au Sénégal. Et puis, au bout de 5 ans, je retourne au Sénégal, parce qu'il y avait un congrès des africanistes, tout ça, qui était un congrès international. Et à cette occasion, disons, Senghor fait en sorte que je suis contraint de le revoir. Je vais le voir, et je dis à Senghor, bon, je reviens au Sénégal, mais je voudrais que mon retour ne soit pas mal interprété. Ben, ou bien, je suis ici, on peut parler des choses que j'ai à cœur et que peut-être vous avez aussi à cœur, mais à ce moment-là, dispensez-moi du protocole. Ou bien on ne reste que sur le plan protocolaire et à ce moment-là, je rentrerai à Paris. Pas. Alors non, il m'a dit, il n'y a pas de protocole entre nous, vous êtes mon ami, tout ça. Et j'ai mis tout sur table à Senghor. Je lui ai dit, voilà, vous étiez un tandem miraculeux, tous les deux, tellement complémentaires. Bon, maintenant, comment faire que les choses puissent se retrouver entre vous? Alors, il me dit, vous comprenez, mais c'est Valdiodio Ndiaye que je crains. Ndiaye est honnête, sûrement, mais Valdiodio va chercher à m'abattre, etc. Bon, on discute. Je dis à Senghor, vous dites que Mamadou Dia est honnête, que Valdiodio ne l'est pas, donc vous maintenez l'homme honnête en prison parce que vous avez peur de celui qui ne l'est pas. Il était embarrassé. Et il me dit, non, mais écoutez, j'aurai besoin de vous pour la suite. Les mois passent, il me rappelle au Sénégal. Et à ce moment-là, je le vois, bien sûr, très discrètement, enfin personnellement, en tout cas le contenu était tenu secret, et il me dit, vous allez rencontrer secrètement Mamadou Dia en prison, et vous allez lui dire de ma part que je le lâcherai tout de suite s'il prend l'engagement de ne pas faire de politique.
Et comment il réagit lorsque vous le lui apprenez ?
Mamadou Dia ?
Oui.
Ah ben, Mamadou Dia réagit de la manière suivante, d'ailleurs j'avais tout à fait anticipé ça, je l'avais dit à Senghor. Ben, Mamadou Dia me dit, pour moi, il a écrit à Senghor dans ce message, ben, que j'ai ensuite transmis à Senghor. Mamadou Dia lui a dit, pour moi la politique, avant d'être un droit, c'est un devoir. C'est le devoir de tout citoyen, disons, de participer à l'aventure collective de ses frères. Ben, on peut renoncer à un droit, on ne peut pas renoncer à un devoir. Donc je ne peux pas renoncer à ce devoir-là. Et puis, alors il disait aussi, mais maintenant bien sûr, comme un simple citoyen, je n'ai aucune ambition, disons, d'enfreindre la loi, ni de m'accaparer le pouvoir. Je demande simplement à être un citoyen parmi les autres, pas plus. Et ce message, l'entretien que j'ai eu avec Mamadou Dia au fond d'une prison bien discrète et secrète, se terminait par une formule qui était magnifique. Mamadou Dia me dit, il faut dire à Senghor que moi, finalement, je préfère vivre libre en prison que d'être prisonnier dehors.
Une telle réponse ne pouvait qu'irriter le président Léopold Sédar Senghor, qui s'est aussitôt refermé à toute négociation.
Il était vraiment... Alors j'ai revu Senghor après, parce que j'ai fait remettre ce message à Senghor. Il était furieux dans un premier temps, pas contre moi, mais contre Dia, parce que ça ravivait toutes les arêtes de sa mauvaise conscience, si je puis dire. Bon, il était furieux, il me dit, oui, bon, maintenant, Mamadou Dia a toujours cette mauvaise tête qu'on lui connaît, ça. Je dis, non, il a une volonté, au contraire, même de réconciliation. C'est un message de paix que je vous apporte, non pas un message de guerre. Bon, alors il me dit, ben, il sortira quand j'aurai décidé qu'il sorte.
Mais les choses ne vont pas en rester là, puisqu'après un moment de silence, ramené en 1974 à Dakar, alors que sa crise aiguë de glaucome, sa maladie des yeux s'aggrave, Mamadou Dia va être finalement gracié le 28 mars 1974. Roland Collin, que s'est-il passé pour que le président Senghor en arrive là? Qu'est-ce qui l'a finalement amené à changer d'avis, à décider ainsi de libérer Mamadou Dia alors qu'il avait été jusque-là réticent et que l'ancien président du Conseil n'avait toujours pas fait fléchir sa position?
Ils se sont rencontrés presque tout de suite. Parce qu'au sortir de prison, Dia a eu un geste extraordinaire. 2 jours après, il a demandé à rencontrer Senghor. Senghor était un peu interloqué et il lui a donné bien sûr rendez-vous. Et un soir, Mamadou Dia va au palais présidentiel. Senghor était là, il s'avance vers Senghor et lui dit, tu ne m'embrasses plus, Léopold. Et Senghor était tout à fait interloqué. C'était vraiment le geste de pardon. D'ailleurs, Diam avait dit qu'il avait supporté sa captivité aussi en s'armant de tout ce que la dimension spirituelle du musulman mystique qu'il était pouvait lui inspirer de pardon, d'ouverture et tout ça. Et il est allé dans cet esprit auprès de Senghor.
Cette embrassade, cette accolade, signifie-t-elle réconciliation? Marque-t-elle le retour de Mamadou Dia sur la scène politique sénégalaise? Après ce rendez-vous surprise, dès sa sortie de prison, quelle va être sa place dans l'environnement politique national? Peut-on parler de réconciliation? Rien n'est moins sûr.
J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui me venait à l'esprit. Khullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa halallahi faliyatawakkalil mu'minin. Pendant les 12 ans que je suis resté en prison, je sais que Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même, et en ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir, il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.
Un acte qu'il ne peut pas oublier, qu'il ne peut pas pardonner. C'est pourquoi Mamadou Dia, l'ancien président du Conseil, va reprendre sa place à sa manière dans le paysage politique sénégalais, comme nous allons le voir dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes. Restez à l'écoute et à très vite. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'ai encore de la tendresse pour lui, c'est ça qui est extraordinaire. J'ai encore de la tendresse pour lui, je n'arrive pas à en faire un ennemi.
Après avoir purgé une douzaine d'années de prison dans des conditions particulièrement difficiles, Mamadou Dia, qui a finalement été gracié par le président Léopold Sédar Senghor, a obtenu dès sa sortie des geôles de rencontrer son ancien ami, celui qui l'a convaincu de se lancer dans la politique quelques années plus tôt, celui avec qui il a dirigé le Sénégal pendant les deux premières années de son indépendance, celui qui l'a fait arrêter et enfermer à Kédougou dans les confins du Sénégal oriental. Roland Collin, le directeur de cabinet de Mamadou Dia.
Ils se sont rencontrés presque tout de suite, parce que au sortir de prison, Dia a eu un geste extraordinaire. Deux jours après, il a demandé à rencontrer Senghor. Senghor était un peu interloqué, et il lui a donné bien sûr rendez-vous. Et un soir, Mamadou Dia va au palais présidentiel, Senghor était là, il s'avance vers Senghor, et lui dit « Tu ne m'embrasses plus, Léopold ». Et Senghor était tout à fait interloqué. C'était vraiment le geste de pardon. D'ailleurs, Dia m'avait dit qu'il avait supporté sa captivité aussi en s'armant de tout ce que la dimension spirituelle du musulman mystique qu'il était pouvait lui inspirer de pardon, d'ouverture et tout ça. Et il est allé dans cet esprit auprès de Senghor.
En réalité, si Mamadou Dia tient à rencontrer Léopold Sédar Senghor, ce n'est certainement pas pour effacer, pour mettre un terme à la brouille. Le charme est rompu depuis longtemps déjà. Mamadou Dia revient sur l'attachement de Senghor à la France, qui serait même plus fort que son lien affectif avec le Sénégal.
J'ai été frappé ce jour-là, vraiment. Là, il s'est exclamé. Ah, Paris, ah, que j'aime Paris. Vraiment, c'était un cri du cœur. C'est très profond chez lui. Je crois qu'il vous aime vraiment, il aime bien la France. Je crois qu'il est français avant d'être quoi que ce soit, avant d'être sénégalais, avant d'être africain. Il a beau chanter la négritude. Je crois que ça, c'est du romantisme, c'est verbal. Mais sa conviction profonde, je crois que c'est la France, c'est vraiment l'amour de la France. Ça, je crois que c'est sincère. Je crois que vous lui devez une place autant au Panthéon. À votre panthéon.
Mamadou Dia, qui rencontre Léopold Sédar Senghor, fait des propositions à son ancien ami, le président de la République.
Je lui ai parlé de mes projets tout de suite. Projet de voyage d'abord. En demandant comment voir. En précisant que j'allais envoyer au ministère de l'Intérieur tout mon calendrier de déplacement. De façon qu'on puisse nous suivre, me faire suivre et recueillir mes propos. Parce que j'ai dit qu'il y a des gens qui vont tout de suite essayer encore de répondre, n'est-ce pas, d'état de rumeur, d'état de bruit. Il y a les fauteurs en eau trouble. Qui vont encore essayer de créer, n'est-ce pas, un climat malsain, de suspicion. C'est pourquoi je demandais qu'on prenne cette précaution-là. Et j'ajoutais ceci, n'est-ce pas, je lui disais, et puis je te demande, chaque fois qu'on viendra, de rapporter un propos, n'est-ce pas, soi-disant de Mamadou Dia, un comportement. Soi-disant de Mamadou Dia, n'hésite pas à m'appeler, pose-moi la question, tu me connais assez pour savoir que je te dirai toujours ce qu'il en est. Je crois que ce sera la meilleure façon, n'est-ce pas, d'éviter les campagnes d'intoxication. Il est tout à fait d'accord. Je lui dis, si tu as besoin de moi, aussi, je suis à ta disposition pour discuter. À ce moment-là, je pensais, n'est-ce pas, à la discussion politique.
Cette mise au point entre les deux frères ennemis ouvre une nouvelle ère politique au Sénégal. Mamadou Dia va se lancer dans un projet qui est un peu la suite sur le plan international de son projet de développement. Il rêve de la création de groupements entre les peuples.
Nous pensons que nous ne sommes pas les seuls à penser à ce projet et que ce projet est en germe aussi dans beaucoup d'esprits, pas seulement dans l'esprit des Africains, mais aussi dans pas mal d'esprits occidentaux, que nous l'avons appelé, nous avons appelé notre mouvement international. En vérité, nous avons toute notre ambition, c'est que nous pensons qu'à partir de ce projet de l'internationale africaine, peut-être pourrait-on alors un jour proposer une nouvelle internationale des peuples.
Roland Collin, vous qui avez suivi de près ce projet et qui en avez parlé dans votre livre « Sénégal, notre pirogue », c'était quoi cette internationale des peuples dont il parlait tant dans la seconde partie de sa vie?
Et alors, Diaw avait un projet que moi je trouvais vraiment extraordinaire et qui nous interpelle aujourd'hui encore maintenant. C'est que Diaw disait, il m'a dit, d'ailleurs dans cette interview que j'ai repris de lui sur des heures, il le dit clairement, il disait, dans l'état où est l'Afrique, avec ses gouvernements balkanisés, là, qui sont trop petits pour résister aux forces extérieures, eh bien, on peut guère attendre que depuis les institutions officielles, il soit possible véritablement que l'Afrique se réunisse, que nous puissions avoir une véritable politique de développement. Donc il faut prendre le problème tout à fait par l'autre bout. Il faut prendre le problème à partir de la société civile, à partir des communautés de base. Et il a décidé de créer une internationale des forces africaines pour le développement qui ne coaliserait pas du tout des partis politiques, qui prendrait le problème par l'autre bout. Ben, aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de société civile et lui, il avait vu ça. Et puis alors il s'est lancé avec mon pèlerin de la paix et du développement. Et là, les autorités sénégalaises ont pris ça, enfin Senghor à l'époque, assez mal parce que l'accueil qui était fait dans les pays que Mamadou Diaw visitait était vraiment impressionnant. En Algérie, en Guinée-Bissau, il a été reçu vraiment comme un grand homme, etc. Et à partir d'un certain temps, on a commencé à mettre des bâtons dans les roues, à freiner sa liberté de mouvement.
Qui ?
Le gouvernement sénégalais.
De Senghor.
Bien sûr.
Avec Collin.
Mais bien sûr.
Mamadou Diaw reste un homme libre qui exprime sans ambiguïté son opinion sur les différents sujets politiques, sociaux et économiques.
Je voudrais, comme président de la République, vous faire mise à Dieu. Et si j'ai un message à vous faire aujourd'hui, Sénégalaises et Sénégalais, c'est bien ce dernier message en faveur de la démocratie qui s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de notre vieux pays. C'est la chose la plus importante, maintenir la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme des partis, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Après 20 ans de pouvoir donc, Léopold Sédar Senghor se retire. Il cède sa place pour aller s'occuper de ce qui le passionne, la poésie. Abdou Diouf, le nouveau président.
Après le départ de Senghor, tout le monde avait pensé que Mamadou Diaw allait, avec son parti, soutenir le nouveau président Abdou Diouf, compte tenu de tout ce qui nous liait et de l'affection qu'elle avait pour moi aussi. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est resté opposant. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs la scission à l'intérieur de son parti. Puisque Wal Diodio et tous ceux qui croyaient en lui l'ont quitté pour venir me rejoindre. Il s'est présenté même contre moi en 1983.
Cheikh Hamidou Kane, écrivain et ancien ministre du gouvernement de Mamadou Diaw.
Il n'a pas accepté que des gens comme moi, comme mon oncle Abou Bakri, ou même Wal Diodio Ndiaye, n'aient pas accepté de le suivre dans son intention de créer un parti politique. N'est-ce pas ? Voilà, donc là... Une des facettes du caractère de Mamadou Diaw, il pardonne tout à Senghor, mais il ne veut pas du tout que les autres se réconcilient avec Senghor ou aient leur liberté d'action.
Roland Collin, l'ancien directeur de cabinet de Mamadou Diaw.
Mamadou Diaw, de toute façon, ne voulait pas reprendre des fonctions politiques. Il voulait être la référence du développement. Il n'était pas question qu'il succède à Senghor de quelque manière. Et il attendait des successeurs de Senghor, disons, qu'il fasse la politique de développement que lui aurait souhaité avoir.
Même s'il n'occupe aucune fonction politique, même s'il reste loin des tribunes, il fait de temps en temps entendre sa voix sur les grands sujets qui touchent l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. comme en 1994, lorsqu'il monte au créneau pour dénoncer la mise en cause de l'opposition dans la violence qui secoue le Sénégal cette année-là.
L'opposition a bon dos. Je pense que c'est tout à fait préfabriqué, tout cela. Je crois que c'était voulu. Ça a même été provoqué. Il y a des indices certains qui montrent même que tout cela, c'est de la machination. Quant maintenant aux causes même de ces explosions, parce qu'il y a tout de même des causes à cela, je dis que c'est absolument c'est la responsabilité entière du gouvernement en place. C'est sa politique, qui est une politique de violence, qui a engendré la violence. La violence actuelle, tout ce qui vient de se passer, ce sont les résultats, n'est-ce pas, de la politique de ce gouvernement qui, sur le plan économique, vous le savez, sur le plan social, c'est un désastre. Le Sénégal ne peut plus se présenter décemment, n'est-ce pas, comme un modèle de démocratie. Bien au contraire, nous sommes même en retard sur tous les autres pays. Le Sénégal ne peut plus se considérer, on ne peut plus considérer le Sénégal comme pays. Les faits sont là. Où a-t-on vu en Afrique, même, je vous cite l'exemple, au Nigeria, que ce soit au Mali, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, on n'a pas encore vu, même là, au Machin, en Guinée, des députés arrêtés dans les conditions où les députés sénégalais de la voie de la Nice Savanée ont été arrêtés, sans lever d'immunité parlementaire. Des députés comme celui qui a été bastonné, humilié. Où a-t-on vu ça dans les autres pays voisins?
Mamadou Dia va même apporter son soutien à certains partis politiques sénégalais. Roland Collin, son ancien directeur de cabinet.
Il soutient un parti, le MSU. Hein. Mais il n'avait jamais, lui, si vous voulez, de fonction qui puisse lui permettre d'accéder à des responsabilités de gestion. Et il l'a fait dans la conscience que, finalement, il y avait des entraves à la démocratie élémentaire, qui aurait permis justement alors de faire cette coalition entre tous les mouvements des sociétés civiles africaines et tout ça.
Abdoulaye Wade arrive en tête au second tour de l'élection présidentielle avec 58,49%. Abdou Diouf, le président sortant, obtient 41,51%. Il accepte dans la plus grande élégance sa défaite. Ainsi, Abdou Diouf quitte le pouvoir après 20 ans à la tête de la magistrature suprême. Le Sénégal donne la plus belle des leçons démocratiques dans une Afrique en proie à des guerres et des troubles post-électoraux. Maître Abdoulaye Wade arrive au pouvoir après 26 ans passés dans l'opposition. Un vent d'espoir souffle sur le Sénégal de El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cardinal Hyacinthe Tchandoum, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Les Sénégalais avaient fini de montrer leur maturité à travers un vote utile dans le calme. 12 ans après, le Sénégal continue son bonhomme de chemin basé sur un commun vouloir de vue commune. Ce 19 mars coïncide avec l'entre-deux tours de la présidentielle. Au premier tour, déjà, les Sénégalais se sont exprimés dans le calme et la sérénité. Dimanche, les électeurs retourneront aux urnes, une occasion de montrer à la face du monde que le 19 mars 2000 n'était pas un accident politique, mais l'expression démocratique d'une volonté populaire.
Mamadou Dia va soutenir l'opposition jusqu'à l'élection de Maître Abdoulaye Wade en 2000. Mais estimant les idéaux qui ont permis l'alternance trahie, il ne va pas hésiter à prendre sa plume pour dénoncer les dérives du nouveau régime. Ainsi, dans une tribune, il fait une sortie remarquée, un article vitriol contre le pouvoir en place qui organise en grande pompe, avec tout le faste, je cite, ce que l'on a appelé le sommet de l'OCI, oubliant le peuple sénégalais frappé de plein fouet par la spirale de la hausse du coût de la vie. Fin de citation. Bref, sa plume est de plus en plus acerbe vis-à-vis de l'administration Wade, qui ne parvient d'ailleurs toujours pas à organiser le procès de sa réhabilitation compromis.
Je pense que de toute façon, Mamadou Dia n'attendait pas, il me l'a dit d'ailleurs, il n'attendait pas, un miracle de réhabilitation pseudo-juridique. Et lorsque, bon, j'ai contribué, moi, par ce livre « Sénégal, notre pirogue », à redire les choses telles qu'elles ont été, il m'a dit « voilà ma réhabilitation historique, j'ai pas besoin d'autre chose ». C'est ça qui est le plus important, c'est le message et la vérité qui court à travers tout ça.
une carrière politique faite de haut et de bas, de très haut et de très bas, mais Mamadou Dia restera une figure de l'indépendance du Sénégal. Le premier ministre sénégalais est décédé ce dimanche à l'âge de 97 ans. Mamadou Dia est passé du statut de protégé de Léopold Sédar Senghor à celui d'ennemi, le tout en 2 ans.
Le 25 janvier 2009 donc, Mamadou Dia a tiré sa révérence et c'est l'ensemble de la classe politique qui lui a rendu un dernier hommage, reconnaissant le rôle important qu'il a joué dans la construction du Sénégal contemporain. Il faut dire que, dans les dernières années, il était devenu, Roland Collin, une sorte de patriarche pour la plupart.
Mamadou Dia, si vous voulez, à partir du moment où il est sorti de prison, s'est retrouvé comme une grande conscience morale, hein, et qui n'avait aucune entrave intérieure pour dire ce qu'il pensait être la justice et la vérité. Donc il s'est exprimé comme tel tout au long de sa vie et jusqu'à sa mort, sa toute récente mort. Eh bien, et de plus en plus, d'ailleurs, pour une bonne fraction de l'opinion africaine, Mamadou Dia apparaissait comme, disons, un des vieux sages rescapés de cette cohorte des pères de l'indépendance. Et bon, on peut espérer qu'une chose, et certains responsables d'ailleurs africains, politiques et d'autres me disent, on parlera de plus en plus de Mamadou Dia maintenant.
Que gardera-t-on finalement de lui? Que reste-t-il du passage de Mamadou Dia à la tête du Sénégal? Amadou Martarbo, ancien ministre de Mamadou Dia, ancien directeur de l'UNESCO.
Mamadou Dia a été certainement un très grand patriote sénégalais. Il avait également une vision internationaliste. Il n'était pas du tout communiste comme on dit, mais il était pour le bien de son pays et pour que les ressources de son pays servent les plus démunis du pays.
Roland Collin, ancien directeur du cabinet de Mamadou Dia.
Ce qui reste de Mamadou Dia, c'est, disons, le message qu'il est possible d'inventer des modèles de développement qui soient démocratiques et qui soient enracinés dans les valeurs africaines et qui puissent avoir une efficacité économique. Ça, c'est le message fondamental. C'est pas une utopie, si vous voulez. Parce que les 5 années où il a été au pouvoir et où il a mis en place tout ce système-là, eh bien, je pense que ce système répond à des problématiques qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et beaucoup de mes amis, non seulement sénégalais, mais africains, me disent il faut que nous ayons revoir un peu tout ça, parce que c'est notre capital et peut-être aussi une partie de notre trésor. À nous de le faire vivre.
C'est sur cette idée que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à ce personnage qui a de toute façon marqué l'histoire contemporaine du Sénégal. Merci Roland Collin pour votre précieux témoignage. Je renvoie d'ailleurs tous ceux qui voudraient en savoir davantage sur Mamadou Dia à votre livre édité par Présence Africaine, Sénégal notre pirogue, au soleil de la liberté, c'est le titre. Nos remerciements vont également à la Sonothèque de Radio France Internationale et à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives sonores qui ont illustré cette émission. Vous pouvez évidemment réécouter cette série sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez continuer de réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.